auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre, auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû le quitter des yeux.
Bonjour chers auditeurs et auditrices, et bienvenue à cette nouvelle émission de La Terre à l'Assiette sur Radio Bartas au 107. Et cette émission vous est préparée par les associations Vergers de Lozère et l'association Jardin Nature 48. Elle vous sera retransmise le 10 décembre et vous pourrez la réécouter également en ligne sur radiopartas.net. Alors, avant de passer à nos jardins et à nos vergers, je vais laisser la parole à Jackie, qui a quelques mots à nous dire sur une question qui nous touche indirectement, mais qui nous touche quand même. Voilà, bonjour Jackie.
Bonjour Cécile, bonjour à tous les auditeurs. Oui, voilà, aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, en fait, une espèce de préambule. Il faut vous dire que nous enregistrons aujourd'hui mardi 10 novembre. Hein, vous aurez cette émission en différé, donc. Sachez que, en plus d'être administrateur de Vergers de Lozère ou Jardin Nature 48, je suis aussi administrateur de l'ALEP, qui est l'Association Lozérienne d'études et de protection de l'environnement. Hier 9 novembre, les locaux de l'ALEP ont été victimes d'une véritable attaque par une bonne vingtaine d'agriculteurs membres de la coordination rurale. Donc ces bureaux sont à Balsièges et c'est là que à partir d'11h du matin, des agriculteurs sont venus carrément attaquer les locaux avec agression sur les salariés. Alors évidemment, je suis très ému hein, de vous raconter tout ça parce que... Déjà, en premier, je me demande comment des syndicalistes qui se revendiquent comme tels, en tout cas, peuvent aller agresser des salariés dans le cadre de leur travail. Ils ont complètement mis à sac le local, donc en détruisant des ordinateurs. Ils ont déposé de nombreuses carcasses de brebis complètement pestilentielles, pleines d'asticots, y compris sur les salariés. Évidemment, jeter à terre et piétiner toute la bibliographie qui devait représenter des animaux absolument épouvantables, hein, puisque c'est notre faune locale. Jeter par la fenêtre, photocopieurs, les dossiers, etc. Un ultimatum a été proféré par ces extrémistes-là en réclamant la présence du président de l'ALEP qui s'appelle M. Rémy Destre. Lorsque celui-ci est arrivé, bien sûr, il y a eu de très vives discussions qui se sont engagées et bien évidemment, aucune écoute, donc simplement des invectives, des menaces très graves aux administrateurs de l'ALEP présents, hein, dont je fais partie, et y compris des menaces de mort devant des gendarmes présents à côté. Voilà. Bien sûr, tous les maux de la terre ont été imputés à l'ALEP, hein, qui réintroduirait des loups. On se demande bien comment, mais et même d'aller jusqu'à réintroduire des rats aux pieds qui font mourir les vaches. Ce serait risible si c'était pas aussi dramatique. Une plainte a été déposée, mais comme on le sait tous, il est fort peu probable que les délinquants soient punis comme ils le mériteraient pourtant. Voilà, et excusez de ce préambule, mais il fallait que je fasse quelque chose par rapport à mon émotion. On peut reprendre l'ordre du jour si tu veux, Cécile, et merci de m'avoir laissé dire cela.
Voilà, et ben écoute, l'ALEP a toute ma sympathie. Passons maintenant donc à nos têtes à nos grands titres. D'abord, je voulais vous parler un peu de la publicité Leclerc, qui s'appelle, je crois, « Nettoyons la nature ». Alors, disons au passage que l'an dernier, Leclerc servait de la dinde qualité supérieure 100% filet, qui contenait en fait 84% de viande de dinde, le reste étant de l'eau, des additifs et du sel, que Michel Audiard-Leclerc a déclaré que ce n'était pas aux clients de décider ce que nous mettons sur le marché et que Leclerc, par ailleurs, continue, mais en encadrant, entre guillemets, le chalutage profond. Donc, on continue à saccager les grands fonds marins, mais attention, en douceur. Alors, nous reviendrons peut-être sur ce dossier dans une autre émission, mais pour l'instant, c'est de l'opération Leclerc nettoyant la nature qu'on va parler et d'une pétition qui m'a été envoyée de M. Alexandre Merlot sur change.org. Une lettre qui s'adresse à Madame la ministre Noja Vallaud-Belkacem. Et en voici en gros un résumé. En septembre, E. Leclerc a recommencé son opération Nettoyons la nature. Mais si le thème de l'action est noble, la finalité ne l'est pas pour autant. Il s'agit d'une formidable et très efficace campagne de communication. Pour le prix de quelques gants et sacs poubelles, le groupe réussit le temps d'une journée à faire endosser à nos enfants des gilets tagués de son logo, alors même que l'uniforme est proscrit dans les écoles. Cette action, loin d'être simplement une opération citoyenne, est surtout une formidable opération de propagande commerciale relayée par tous les médias locaux et nationaux. Donc, ce monsieur Alexandre poursuit, je suis moi-même parent et on m'a demandé à mon enfant de participer à cette action contre laquelle je suis fermement opposée. Nous, les parents, nous n'avons pas attendu Leclerc pour éduquer nos enfants. Nous savons à quel point il est essentiel qu'ils prennent conscience de l'importance du tri, de la façon dont sont collectés les déchets et leur responsabilité vis-à-vis de l'environnement. En ce qui concerne le choix des familles de participer à ce week-end, chacun libre de ses actions et le but est louable. Cependant, que l'école publique se fasse le relais d'opérations de communication de groupes commerciaux est déplorable et inacceptable. Que l'éducation publique, par facilité, réponde favorablement à une propagande commerciale, qu'elle inculque à nos enfants à grand renfort de dossards, affiches et autres supports à l'effigie de l'enseigne, qu'une entité commerciale comme E. Leclerc est un acteur de l'environnement, il y a là un véritable problème de discernement de ceux qui sont en charge par la communauté d'instruire nos enfants en cultivant leur libre arbitre. Et il continue, à quand la publicité dans les manuels scolaires ? Bon, je termine. En aucun cas, dit M. Alexandre Merlot, l'école publique ne doit se soumettre à une action de communication commerciale de quelque enseigne que ce soit. Madame la ministre Noja Vallaud-Belkacem, pourriez-vous faire en sorte que l'école publique demeure un lieu de neutralité en s'interdisant de se faire le relais de telles manifestations? Vous empêcherez ainsi toute forme de conditionnement pour nos enfants. Voilà, alors je passe maintenant la parole à Jackie, qui va nous parler de ce qui se passe dans le jardin potager en novembre.
Eh bien, oui, revenons à nos jardins. L'hiver au jardin potager et au jardin d'ornement, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, contrairement à ce que m'a appris mon grand-père, et sans doute ce que vous a appris vos grands-parents, je ne conseille vraiment pas de nettoyer le jardin avant l'hiver. Au contraire, plus le sol sera recouvert de végétation vivante ou morte, plus votre terre sera vivante et riche. Elle sera entretenue vivante comme ça. Vous laissez les engrais verts sur place, ils gèleront tôt ou tard. Vous laissez sur le sol les fans de légumes arrivant à terme en ce moment. Hein, je pense aux haricots, aux cucurbitacées, etc. Paillez même si nécessaire, mais le mot d'ordre, c'est recouvrez votre sol pendant l'hiver, de façon à ce que la vie, hein, les vers qu'on voit plus, toutes les micro-organismes qu'on ne voit pas, continuent à travailler pendant l'hiver. Alors, à y être de pailler, ben vous pouvez pailler copieusement les poireaux qui, eux, vont rester dans le jardin. Avec des feuilles, par exemple, hein, puisqu'il en tombe beaucoup en ce moment, ils seront bien plus faciles à arracher, même par temps de gel. Les tailles d'automne étant faites sur les arbres et les arbustes le nécessitant, vous pouvez aussi couper les inflorescences des rosiers, mais pas celles des hortensias. car celles-ci protégeront les bourgeons à fleurs situés en haut des tiges d'hortensia. Hein, on retirera ces inflorescences séchées simplement au printemps. Même chose pour les plantes vivaces. Hein, ne nettoyez pas à outrance, car pensez bien que c'est le feuillage flétri qui protégera les racines pendant l'hiver. Enfin, un conseil d'importance, je le dis, je le répète, mais très certainement pas assez, puisqu'on voit toujours, trop souvent, des colonnes de fumée s'échapper des jardins, hein, en cette saison-là. Celui qui brûle ainsi les végétaux n'a pas compris que ceux-ci sont chargés de sels minéraux puisés dans le sol à la belle saison et stockés dans leurs tissus. Si je les brûle, je contribue à l'appauvrissement de mon sol. Alors que, au contraire, si je les laisse se décomposer dans un coin du jardin, j'enrichirai mon sol avec plus tard. Donc, si vous devez retenir une chose qui pour moi est essentielle, c'est bien celle-ci, sous forme de slogan, « J'ai compris, je ne brûle pas ». Voilà quelques préconisations pour entretenir votre jardin cet hiver.
Eh bien, merci Jackie pour ça. Et là, je dois dire que tu me tires une grosse épine du pied parce que j'ai énormément de choses à faire en ce moment et que je regarde le jardin en me disant « il faut absolument que je nettoie pour l'hiver ». Eh bien non, je vais pouvoir passer à autre chose sans le moindre sentiment de culpabilité. Alors, merci beaucoup pour ça.
Je t'en prie.
Alors, je voudrais parler aussi, je suis allée les 7 et 8 novembre, je me suis rendue à la fête de l'abeille noire au pont de Montvert. Et ça m'a ouvert des horizons nouveaux. Je ne suis pas apicultrice moi-même, mais je suis intéressée et fascinée d'ailleurs par le monde, ou plutôt la société des abeilles, et en particulier par l'abeille noire, qui serait la plus ancienne de nos abeilles européennes et aurait fait vivre nos ancêtres pendant des millions d'années. Alors, il existe évidemment une sorte de sainte alliance d'union sacrée, on pourrait dire, entre l'apiculture et l'arboriculture fruitière, pour des raisons que vous connaissez certainement tous. Tout simplement, l'abeille pollinise les fleurs des fruitiers. Sans elle, il n'y aurait tout simplement pas de pommes, poires, prunes, etc., ou très peu. Et le verger, bien sûr, lui fournit le nectar et le pollen dont elle a besoin, non seulement par les fleurs des arbres fruitiers au printemps, mais aussi par celles des innombrables petites plantes qui peuplent le pré sous les arbres. L'apiculture a donc un rôle cohérent et indispensable à jouer dans un verger. Ce qui est particulièrement intéressant avec l'abeille noire, c'est son extraordinaire spécificité, sa capacité d'adaptation à un certain terroir. Comme elle avait au départ une très vaste aire de répartition, toute l'Europe, l'abeille noire présente des variétés locales qu'on nomme des écotypes, qui sont très variables en fonction du climat et de la flore locale. L'écotype est une variété d'une espèce qui présente des caractéristiques nouvelles, adaptées à des habitats différents. Chez l'abeille noire, donc, l'écotype d'Auvergne ou de Provence ne sera pas la même que l'écotype des Cévennes. L'abeille noire des Cévennes aura appris à prévoir des hivers rudes, des étés où sévit la sécade, comme on dit, des étés secs et chauds. Et comme le cévenol humain, elle est l'abeille noire et frugale, prévoyante et économe. Quand vient l'hiver, les abeilles consomment très peu de miel pour leur alimentation, mais elles ont besoin de chaleur. Il leur faut entretenir une température permanente de 36 degrés dans la ruche. Alors, le miel, elles s'en servent comme combustible. Permettez-moi de vous lire un extrait d'un ouvrage passionnant que je me suis procuré à la fête de l'abeille noire au pont de Montvert. Il s'intitule « Ruchetron, une apiculture d'accompagnement des abeilles ». Et il est signé Henri Georgi, apiculteur professionnel qui se passionne pour l'abeille noire et fabrique lui-même des ruchetrons. Donc, en hiver, le miel sert de combustible. Alors voici le texte, l'extrait de texte de Henri. Maintenir la température en période hivernale. En période hivernale, les abeilles à l'intérieur de la ruche forment une grappe, c'est-à-dire qu'elles s'agglutinent les unes aux autres jusqu'à ne plus former qu'une seule masse vivante. Jamais la notion d'organisme n'est aussi évidente. Suivant les variations de la température ambiante, la masse se contractera ou se dilatera de façon à rendre plus homogène la température interne constante de 36 degrés. La chaleur est entretenue du fait de l'absorption de miel par les abeilles. Ce miel est transformé en calories par les abeilles périphériques de la grappe qui, suivant un réflexe thermostatique très lent, vont suivre un cheminement de la surface de la grappe jusqu'à son intérieur, diffusant ainsi chacune sa part de chaleur. Les places périphériques sont aussitôt occupées par les abeilles de l'intérieur qui vont se charger à leur tour de miel. Ainsi, un flux constant, pourvoyeur d'énergie, comme le sang de nos veines ou le courant du Gulf Stream pour la planète, alimentera en chaleur l'ensemble de la grappe. Il va sans dire que ce type de chauffage n'induit aucun effet néfaste sur notre planète. Durant cette période d'hivernage, les abeilles ne sortiront qu'à de très rares occasions pour se vider de leurs excréments, pour saluer une belle journée d'hiver, mais la température ne devra pas être inférieure à 8 ou 10 degrés et, si possible, ensoleillée. Voilà, fin de citation. Et évidemment, nous allons maintenant faire une petite pause musicale et nous allons écoutez Bourvil nous chanter les abeilles.
Les seins se gonflent et s'abandonnent à la caresse du printemps. Et dans la ruche tourbillonne, prêtes à prendre leur élan. Les abeilles se posant par cent et par mille sur les fleurs qui s'ouvrent à peine, elles butinent leur pistil pour en extraire le pollen. Bzz, 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 bzz. Les abeilles, ces gentilles petites bestioles, fabriquent d'abord de la cire. Elles y font des alvéoles, doux petits nids pour bien dormir. Bzz, 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 bzz. Les abeilles. Mais gare à celui qui s'égare au milieu d'elles par hasard. Il aura beau s'enfuir dardard, il sera piqué par le dard. De l'abeille. Quand vient le grand jour de la ponte, la reine doit faire de son cordon. Et dans l'azur elle monte, monte, poursuivie par tous les bourdons. Ça va être sa fête. C'est celui qui la rattrapera qui sera le bourdon papa. Mais tout de suite après il mourra pour avoir donné tout ce qu'il a. Vache d'abeille. Si tous les hommes ici-bas devaient mourir à ce moment-là, j'en connais plus d'un, croyez-moi, qui y regarderait à deux fois. Zzz, 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 zzz. À d'autres. Heureusement que c'est pas demain la veille que les femmes deviendront abeilles. danse cache d'or sur mes deux oreilles. Et je dis miel aux petites abeilles. Pensez bien, quand je suis avec ma fiancée, je me fiche pas mal des abeilles. Des abeilles. Je me demande un peu. Enfin. Allez, à la ruche. À la ruche.
Vous êtes toujours au 107 sur Radio Bartas. Vous venez d'entendre Bourvil nous interpréter Les Abeilles, qui était un des sujets de notre émission De la Terre à l'Assiette. Et nous allons maintenant passer à un autre sujet sur les agrumes l'hiver. Et puis je crois, Cécile, que tu as des questions à poser.
Voilà, alors justement, je t'ai apporté ce joli petit citronnier. Enfin, j'espère que tu vas dire qu'il est joli et sain, surtout. J'ai acheté 3 petits citronniers l'année dernière. Ils ont pratiquement doublé de taille depuis, en un an. Et par contre, je n'y connais rien du tout en citronnier. Ils sont dans leur pot d'origine. Ils ont passé tout l'été dehors. Je les ai arrosés parcimonieusement. Voilà, voilà un mot difficile. Et je voudrais, voilà, alors Jackie, je voudrais que tu me donnes quelques conseils. Alors d'abord, justement, pour l'arrosage, est-ce qu'il faut les arroser beaucoup, peu, passionnément, pas du tout?
Alors surtout pas à la folie. Je pense qu'il faut les arroser là aussi avec parcimonie. Ce sont des plantes de pays chauds qui supportent donc très bien la sécheresse. Hein, toujours revenir à l'origine des plantes, ça vient des pays méditerranéens. Dans les pays méditerranéens, eh bien, on a peu de précipitations, donc je ne vais surtout pas trop arroser les citronniers en général.
D'accord. Bon, alors, je mets un peu le doigt dedans, et si c'est archi sec, ou si les fleurs, les feuilles ont l'air d'être un peu flagada, à ce moment-là, je donne une petite goutte d'eau.
Voilà, oui, ça peut se voir surtout au niveau des feuilles, hein, parce que la surface de la terre ou du terreau sera très certainement sèche, parce qu'il suffit d'avoir une belle journée ensoleillée et toute la surface est sèche. Moi, je préconise plutôt de le voir au niveau des feuilles. Hein, on voit si on a une feuille qui est bien étalée, à plat, ou si on a une feuille qui est un petit peu pleureuse, c'est une manière pour les plantes de réagir. Attention, une journée très chaude sur les plantes, les plantes elles-mêmes vont couper boucher, si vous voulez, un peu les pores qu'il y a sur les feuilles, hein, pour éviter la déshydratation. C'est pour ça que vous avez, par exemple, l'été des plantes comme les tomates ou autres, on peut les voir dans l'après-midi avec des feuilles tombantes, et simplement quand la température s'équilibre un petit peu, qu'on a la fraîcheur de la nuit qui arrive, et bien très naturellement les feuilles se remettent à plat. Donc attendez de voir que les feuilles souffrent pour arroser les citrus qui demandent pas beaucoup d'eau.
Bien, ben merci beaucoup. Et alors, ensuite, donc, ce plant de citronnier, d'ailleurs, j'ai oublié de dire, c'est un Eureka 4 saisons. Et ce que je voudrais savoir aussi, c'est quand il faut le rempoter, parce que je ne l'ai pas touché depuis que je l'ai reçu.
Alors, le rempotage s'effectue après l'hivernage. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce genre de plante doit hiverner. C'est-à-dire qu'on va mettre dans un garage ou dans une cave ou un endroit, en tout cas, qui ne voit pas trop la lumière et qui est frais, c'est-à-dire entre 6 et 10 degrés, ce serait l'idéal, pour faire hiverner ma plante qui va donc avoir besoin de rien, ni lumière, ni alimentation en eau. C'est cette hibernation qui va lui permettre de bien redémarrer au printemps. Et donc, ça va être à la fin de l'hibernation, pour répondre complètement à ta question, qu'on va pouvoir rempoter cette plante.
D'accord. Et ce que je voulais aussi te demander, c'est pour la taille. Je pense que ceux-ci sont trop jeunes pour être taillés. Et qu'est-ce qu'il faut ? Est-ce qu'on dit qu'il ne faut pas trop tailler les citronniers ?
Alors, effectivement, quand on les achète petits, hein, il faut dire à nos auditeurs que là, c'est un citronnier qui fait 30 cm de haut, hein, pour avoir un ordre d'idée, qui a déjà des boutons à fleurs dessus. Dans un premier temps, on ne va pas intervenir sur ces petites branches, parce que en fait, on va attendre que le bois soit formé pour tailler. Hein. Ici, on est en présence donc d'un citronnier qui a même, je vois, un fruit gros comme une noix. On va le laisser passer l'hiver tranquille. Au printemps, on va pouvoir le rempoter, donc comme je disais. Autre chose à faire aussi, c'est à mettre des engrais. Alors là, entendons-nous bien, hein, qu'est-ce qu'on va mettre comme engrais? Il faut qu'on pense que c'est un arbre fruitier, on va manger ses fruits. Donc moi, je préconise en engrais un petit peu coup de fouet du sang déshydraté, et puis en engrais un peu plus à long terme, de la corne torréfiée. Voilà, ce sont des engrais tout à fait naturels qui nous permettront de manger les fruits sans arrière-pensée.
D'accord.
Alors après, quand il va devenir plus gros, je vais finir un petit peu pour la taille, quand il va devenir un petit peu plus gros, eh bien, je vais faire comme pour un arbre fruitier, c'est-à-dire que je vais essayer de l'ouvrir en son milieu, hein, pour lui donner une forme de bol, afin que la lumière rentre le mieux possible. Et puis, à la sortie des printemps, je réduirai la ramure d'à peu près un tiers.
Alors, et comme terreau, qu'est-ce qu'il faut lui donner? Il faut lui donner un terreau spécial, il me semble.
Voilà, alors terreau, voilà un terme qui convient qu'à moitié pour du citronnier. Moi, je ferais un mélange en trois tiers de la terre de jardin, du terreau et du sable. Ça peut vivre dans des milieux, hein. On le voit en Espagne par exemple, par des milieux un peu pauvres au niveau du sol. Donc la terre va m'amener quelque chose d'un peu pauvre dans un pot. Hein. Autant elle est riche, la terre, quand on est dans un jardin, autant quand on la met dans un pot, comme il y a une bonne partie de la biodiversité qui est à l'intérieur qui va mourir, ça sert de support. Le terreau et le sable vont me permettre de bien drainer ce mélange, parce qu'il ne faut surtout pas d'eau stagnante pour les citrus. Quand on parle du citronnier, là, j'aime bien dire les citrus, parce que c'est valable aussi pour l'oranger, le mandarinier, le kumquat, etc.
Bien, merci pour ça. Et mais en t'écoutant, là, je regarde mon citronnier et je remarque deux ou trois feuilles, quatre en fait, qui m'inquiètent un tout petit peu. Alors, d'une part, il y en a une qui a l'air d'être un peu grignotée. Il y en a une autre, je remarque qu'elle a une légère petite toile blanche dessus, une espèce de toile d'araignée. Il y en a une autre qui est un peu boursouflée. Et enfin, il y en a qui sont un petit peu pâles. Alors, j'aimerais que, si tu veux bien, voilà, me faire un diagnostic.
Alors là, il y a des choses qui sont pas graves. Hein. Le fait que les feuilles soient un petit peu mangées, ben, c'est plutôt sain. Ça veut dire qu'il y a des insectes dans le jardin. Hein. Ça peut être des chenilles, des petits coléoptères qui mangent comme ça. La proportion dans ces feuilles attaquées est petite. C'est-à-dire que c'est à peu près un dixième de la feuille. Donc, pas de problème. Si c'était beaucoup plus important, le végétal lui-même ferait tomber sa feuille, c'est-à-dire qu'il couperait le courant de sève au niveau de la tige et pas besoin d'intervenir. L'espèce de toile d'araignée, en fait, ça devait être une chenille qui avait commencé à faire un hamac pour devenir chrysalide et puis qui a dû changer d'avis parce qu'il n'y a rien à l'intérieur. Donc ça, c'est pas inquiétant. Quant à quelques feuilles jaunes, alors tout est toujours question de proportion. Là, on a peut-être 5 à 10% de feuilles qui sont un petit peu moins vertes. Ça doit nous alarmer un petit peu, dans le sens où une feuille qui est pas riche en chlorophylle, très souvent, ça veut dire que la plante n'a pas assez à manger. Et donc, c'est bien au printemps, en remettant du sang desséché et la corne torréfiée, que j'arriverai à compenser ça. Mais intervenez pas trop sur des végétaux qu'on va mettre à hiberner, puisqu'en fait, à la fin de l'hibernation, eh ben, on va voir qu'il y a des feuilles qui seront tombées. On va voir que les végétaux vont repartir avec de nouvelles feuilles. Voilà, là, il n'y a rien d'alarmant.
Eh bien oui, et ces petites feuilles un peu boursouflées, là, c'est...
Alors ça, c'est qu'à un moment, c'est une question de développement. Hein. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, si on était sur un arbre fruitier typique, genre pommier-poirier, ce serait des pucerons qui auraient fait ça. Ici, c'est simplement qu'au moment du développement de la feuille, la nervure centrale a un petit peu moins bien poussé. Alors là, après, c'est vraiment un épiphénomène. Donc, on n'en tient pas compte. Si cette feuille ne remplit pas sa fonction, de toute façon, la plante la fera tomber.
Bon, eh ben, écoute, merci beaucoup de ces conseils. C'est formidable. Je vois que pour le moment, là encore, je n'ai pas grand-chose à faire. Bon, et puis, je pense que nous sommes bientôt à la fin de notre émission. Et tu vas nous rappeler ce qui se passe maintenant pour nos associations et en particulier pour les journées de Saint-Jean-du-Gard.
Et oui, comme chaque année en début d'hiver, il y a Verger de Lozère qui distribue quelques variétés de fruitiers de Lozère que nous avons fait greffer par un pépiniériste en février dernier. Enfin, on lui a envoyé les greffons en février. Hein, lui, il les a greffés quand il a voulu. Cette année, nous avions les pommiers émiliens, donzeilles, rainettes de mande, rainettes de balsiège, pigeonnet, bouscasse de bayle et le poirier pelatin. Pour nos adhérents qui sont prioritaires sur le choix des arbres, les plants sont vendus par nous au prix coûtant, mais nous acceptons aussi de vendre à des non-adhérents avec un tarif un peu plus cher pour nous y retrouver. Ces arbres seront récupérés aux journées de l'arbre, justement à Saint-Jean-du-Gard, qui ont lieu cette année les 28 et 29 novembre. On aura un stand au premier étage du bâtiment principal, à côté de Fruits Oubliés, qui est notre partenaire réseau. Donc, ça sera assez facile à nous trouver.
Oui, donc nous serons très heureux de vous voir, si vous voulez venir nous voir. Jackie, je crois que tu es là le samedi, et moi le dimanche, et avec d'autres membres du CA.
Nous serons d'ailleurs ravis de saluer nos auditeurs qu'on ne voit jamais. Ça peut être une occasion pour venir nous dire bonjour.
Tout à fait. Et alors donc, je rappelle que cette année, la fête de Saint-Jean-du-Gard a pour thématique les plantes lianes. Donc, je pense qu'il y aura des tomates, entre autres.
Les actinidias,
les fleurs de la passion.
Les fruits de la passion, oui.
Oui. Voilà. Alors donc, nous vous donnons rendez-vous donc pour décembre, pour les émissions de décembre. Qu'est-ce qu'on va faire pour décembre ?
Alors, on n'a pas encore eu le temps de vraiment préparer, mais on a quelques idées. Hein, peut-être avec des recettes de Noël au niveau, justement, des légumes de saison. Vous parlez des pommes à boudin. Ça, ce sera normalement, traditionnellement, c'est au mois de janvier qu'on fait le cochon. Et le pourquoi, comme ça, des pommes à boudin, c'est des variétés de fruits qu'on garde bien précieusement. On pourra vous parler aussi pourquoi est-ce qu'on fait la bûche de Noël, d'où vient le sapin de Noël. Et puis peut-être on abordera un sujet qui peut paraître étonnant comme ça, c'est pourquoi les Français qui fument et qui boivent ont une telle espérance de vie au niveau européen. Alors voilà, on essaiera de comprendre pourquoi et de vous l'expliquer. Voilà, vous venez d'écouter l'émission De la Terre à l'Assiette sur le 107 sur Radio Bartas et qui sera rediffusée le 10 décembre. Merci de votre écoute à tous.
Merci beaucoup et merci Jackie et à très bientôt.
Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux.